Session philosophique sur la personne par le père Philippe, le 12 juillet 1989 à Saint-Jeudard.
Il y a pas mal de petites questions, des questions importantes. Alors, je prends d'abord les questions des différents groupes. Conscience et subjectivité. Il est évident que la conscience est subjective. Mais la subjectivité est plus que la conscience. Et ça, c'est toujours comme ça qu'on doit faire quand on est en face de deux termes un peu parallèles, semblables. Regardez au point de vue de l'extension. Parce que souvent, l'un est compris dans l'autre. Il est évident qu'il n'y a pas de conscience sans subjectivité. C'est-à-dire, subjectivité, le sujet pensant. Je pense, donc j'ai conscience de penser. Si je ne pensais pas, je n'aurais pas de conscience. La conscience est donc quelque chose qui vient après ma subjectivité pensante. C'est moi qui pense. La subjectivité, c'est l'être pensant. Je suis pensant. Je suis parlant. Et j'ai conscience de parler. Donc c'est la propriété de la connaissance de celui qui pense. Il n'y a pas de conscience sans connaissance. La subjectivité, c'est beaucoup plus vaste. Parler, par exemple, celui qui connaît, du fait même qu'il connaît, c'est le sujet connaissant. On est devant la subjectivité de celui qui connaît. Celui qui aime, on est devant la subjectivité de celui qui aime. Vous voyez, dans subjectivité, c'est tout ce qui provient de l'homme en tant qu'il connaît, en tant qu'il aime, en tant qu'il est passionné. C'est ça, sa subjectivité. C'est très vaste. C'est le vivant. Puisque, qu'est-ce que c'est que le vivant? C'est celui qui se meut. Il se meut. Vous voyez bien la subjectivité. C'est lui qui est source de toutes ses activités. La conscience est un élément de la subjectivité. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la subjectivité? Je dirais que la subjectivité, c'est tout simplement le vivant qui se meut. Dès que je me meus, je suis subjectif. C'est moi qui me meus. Je me meus en connaissant, je me meus en aimant, je me meus en étant passionné, je me meus même en mangeant. Dès que vous vous regardez dans la glace, vous mangeant, vaut mieux pas, tu vois. Dès que vous vous regardez dans la glace en mangeant, vous voyez la manière dont les autres voient votre subjectivité. Vous devenez donc objet. Votre subjectivité devient objet. Vous vous voyez comme mangeant. Tandis que quand vous êtes dans la subjectivité pure, vous êtes uniquement celui qui mange. Et vous ne vous regardez pas mangeant, parce que ça trouble votre manière de manger. C'est évident. Faites une fois l'expérience. Je me souviens de ce type qui aimait de faire des grimaces. Et qui aimait de se regarder faisant des grimaces. Vous voyez, tout de suite. Comme si la gargouille se voyait gargouille. La gargouille, c'est subjectif. On est tous un peu gargouille. Subjectivement. Et puis dès qu'on se voit gargouille, on se dit, je suis comme ça. Je ne me croyais pas aussi gargouille. Et comment la subjectivité peut devenir objective? Bon, conscience est bon. Alors, il y a une question que je viendrai ce soir, puisqu'elle est théologique. Peut-on avoir une connaissance objective de l'autre? N'est-ce pas un peu utopique? Tout dépend du degré de votre objectivité. Vous voyez, là, je vous pince au tournant. Quand vous êtes dans une pure subjectivité, il est évident que vous ne voyez l'autre que dans votre subjectivité. Mais vous pouvez petit à petit acquérir une certaine objectivité. Ça s'acquiert. Bon, j'explique pour que vous compreniez. Je suis passionné. On sait très bien ce que c'est que la passion, quand même. J'aime quelqu'un passionnément. Ah, je le sens. Ça sent la passion. J'aime quelqu'un passionnément. Vous n'avez donc, à ce moment-là, aucune objectivité de l'autre. Puisque c'est l'autre que vous aimez passionnément. Donc, vous n'avez aucune objectivité de l'autre. Mais vous pouvez comprendre que vous êtes passionné. À ce moment-là, vous dépassez votre passion. Et vous commencez à connaître l'autre objectivement. C'est vrai, c'est deux connaissances différentes. Il n'y a d'objectivité qu'au niveau de la connaissance intellectuelle. Quand vous avez une connaissance purement passionnelle, aucune objectivité. Quand vous avez, au-delà de la connaissance passionnelle, une certaine connaissance intellectuelle qui ne détruit pas la passion, mais qui la dépasse. Je suis passionné pour cette personne. Dès qu'elle est là, ah, je sais plus ce que je deviens. Je le sens bien. Je deviens du champagne. Ça vous. J'attends que le champagne tombe. Quand le champagne tombe, il y a l'objectivité. Il reste un peu de champagne. Alors, il y a l'objectivité qui pousse à l'intérieur même de ce sentiment passionnel, de ce fait que je suis très vibrant dans ma passion, et j'arrive à le regarder l'autre et de le connaître objectivement. Oui, l'intelligence ne va pouvoir émerger que quand le champagne dans sa mousse sera un petit peu tombé. Ça, on fait cette expérience, je dis pas tous les jours, mais de temps en temps, on comprend très bien que la passion s'émousse. C'est sûr, ça s'émousse. Et quand la passion s'émousse, l'intelligence commence à émerger. Et vous commencez à pouvoir aimer l'autre d'une façon spirituelle. Et quand la passion est trop forte, non, elle étouffe tout. Et vous aimez uniquement passionnément. C'est pour ça que je dis toujours, faites attention. L'amour des personnes qui ont 17 ans, 15 ans, n'est pas le même l'amour des personnes de 25 ans. J'ai un petit conseil à donner si vous avez 25 ans, n'est-ce pas ? J'ai toujours très peur, moi, d'un amour de jeune de 17 ans, puis se quitte, puis se retrouve à 25 ans. Ils veulent retrouver le même amour. Parce que la passion, elle est au niveau sensible. Alors, la passion de 15 ans, on a tous connu ça, quoi. C'est le champagne. Oh là là, ça pousse avec une chose extraordinaire. extraordinaire. C'est merveilleux. C'est beau, du reste. Moi, ça me touche beaucoup. C'est très touchant, ça. Quand on n'a plus 15 ans. Mais c'est terriblement gênant de voir la passion de quelqu'un de 15 ans chez quelqu'un de 40 ans. C'est gênant. Et chez quelqu'un de 70 ans, c'est encore plus gênant. Et ça existe de temps en temps, ça. C'est ça qui est très curieux. On voit ça. Il faut comprendre le phénomène de la passion. Le phénomène de la passion, affectivement, c'est quelque chose de très beau. Mais attention, l'âge de la sensibilité de 15 ans, normalement, n'est plus la même passion à 45 ans, ou tout simplement à 25 ans. Vous voyez, la passion a des modalités différentes. 15 ans, 25 ans, 45 ans, 70 ans. Je prends ça, hein, il faudrait sans doute le mesurer autrement, et les psychologues qui s'intéressent à ça, je comprends très bien, c'est très intéressant du reste. Il suffit d'avoir un tout petit peu conscience de ce qu'on est, pour s'apercevoir que la passion de 75 ans, c'est la passion d'un vieux volcan. Parce que la passion est toujours volcanique. La passion de 15 ans, d'un petit volcan qui commence. Bon, on a conscience de ça, on a conscience. On peut tâter son pouls passionnel. Il ne faut pas le supprimer. La passion est bonne. Le tout, c'est qu'elle soit suffisamment dépassée par l'intelligence. Et un amour spirituel. Qu'elle soit assumée par l'intelligence et un amour spirituel. Ce qu'on fait très difficilement à 15 ans. Mais c'est charmant à 15 ans. Mais si on fait ça à 25 ans, c'est déjà ennuyeux. On dit, il manque de maturité. On dit ça tout simplement. Le psychologue dit ça. Il manque de maturité. En d'autres termes, l'intelligence ne s'est pas suffisamment développée et l'amour volontaire, spirituel, ne s'est pas suffisamment développé. Il est resté à une affectivité de 15 ans. Donc il n'est pas mûr. Ça manque de maturité. Et quand ça existe encore à 70 ans, on risque de dire, c'est le gagatisme. Il retombe en enfance. Et il est le seul pour s'en apercevoir. Et tous ceux qui sont autour disent oui. J'ai vu des choses comme ça dans la vie religieuse, ça existe. Et dans la vie humaine, ça existe. Vous voyez, des divorces à 45 ans. Des foyers qui étaient très unis. Puis tout d'un coup, à 45 ans. Le volcan. Et on aime un nouveau visage. C'est vraiment une immaturité. Mais ça existe. Hein. Et je ne veux pas dire à celui-là, non, ça me fait toujours penser à cette image que j'aime beaucoup parce qu'elle est très significative. Ce volcan qui s'est allumé il y a quelques années au Zaïre. J'ai pu non pas le voir quand il crachait, ça c'était trop dangereux, mais après. Et alors on m'a raconté cette histoire, que je trouve très belle. Ce volcan commençait à avoir une petite fumée, oui. La passion commençait à s'allumer. Alors, on surveillait ce volcan. Et il y avait des professionnels qui étaient venus, qui avaient dressé leur tente à un endroit au sommet, et puis qui surveillait. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? volcan s'est mis à cracher sur le côté. Pas sur le cratère qu'on surveillait. Sans doute que c'était tellement violent. Il s'est mis à cracher. Alors, ceux qui étaient en haut, voyez la situation. Vous ne pouvez plus descendre. Sauf sur un côté. Grâce à Dieu. Je crois que ça, c'est très significatif. On surveille ses patients. Et quelquefois, il y a des fissures sur le côté. Et on n'est pas assez attentif que l'aspect volcanique peut prendre des tournures très différentes. La passion est extrêmement fantaisiste. Parce que l'imaginaire nourrit les passions. Alors c'est ça qu'on voit chez ces gens-là. À 45 ans, toutes les promesses qu'ils ont faites, et même quelquefois avant 45 ans, toutes les promesses qu'ils ont faites, en un rien de temps, ne signifient plus rien. Ça dégringole. Alors à ce moment-là, on essaie de les raisonner, de les mettre dans la vérité. Au nom de la sincérité, il n'y a plus rien. J'ai entendu des prêtres à 45 ans, au nom de la fidélité à la vie. Ils le disaient eux-mêmes, vous êtes fidèles à la vie, c'est-à-dire fidèles à leur passion. C'est ça la sincérité, être fidèle à l'imaginaire. Alors il faut attendre que ça dégringole. Et une des choses, mais très très nette aujourd'hui, hein, c'est la différence entre la sincérité et la vérité. La vérité, c'est être conforme à ce qui est la réalité objective. La sincérité, c'est être conforme au sentiment imaginatif qu'on porte en soi. Et c'est terrible, ça. Alors, voyez, je comprends très bien ce qu'on veut dire. Peut-on avoir une connaissance objective de l'autre ? Tout dépend du degré passionnel dans lequel on se trouve. Il faut aimer l'autre pour le connaître. Mais d'un amour spirituel, d'un amour volontaire et spirituel, qui alors respecte à ce moment-là l'objectivité de l'autre. Et j'ai une vraie connaissance objective de l'autre. Tandis que si je suis dans un état passionnel, alors à ce moment-là, aucune objectivité. C'est pour ça que c'est difficile, hein, c'est pas commun du tout. Je n'insiste pas plus. Oui, on me parle ici du personnalisme Bounier. Je ne veux pas trop entrer dans ce personnalisme Bounier, parce que d'abord, il faut avancer. Je veux simplement situer que ce personnalisme existait en face d'une politique totalitaire. Mounier et Maritain, là, ont des réactions analogues. Sauver l'homme d'un aspect de politique totalitaire. Et le personnalisme Mounier, c'est découvrir par le point de vue de l'esprit quelque chose qui dépasse le bien commun politique. Mais Mounier ne précise pas beaucoup. Parce que ce n'est pas un vrai philosophe, c'est un penseur, c'est un homme merveilleux, c'est un penseur qui a un sens de la dignité de l'homme et du caractère spirituel de l'homme. la revue Esprit d'aujourd'hui ne correspond pas du tout à la revue Esprit du temps de Mounier. On ne faudrait pas regarder la revue de l'Esprit aujourd'hui en disant voilà, c'est Mounier. Pas du tout. Et ça, ceux qui sont les plus fidèles à Mounier le disent et en souffrent. Alors on me dit que je n'ai pas parlé de la dimension du travail et de la personne. C'est vrai. C'est que de fait, il y a très peu, j'en connais pas du reste, de philosophes qui regardent la personne par le travail. Sauf le marxisme avec la praxis, sauf le Saint-Père avec son encyclique sur le travail. Mais la praxis ne nous parle pas vraiment de la personne humaine, puisque la praxis est vue dans une perspective de dialectique matérialiste qui voit le travailleur comme partie du parti communiste. Et donc, il n'y a pas de vrai problème de la personne. Dans le communisme, il y a un problème du travail et de la praxis, mais il n'y a pas véritablement un problème de la personne humaine. C'est le tout. C'est les travailleurs. C'est l'humanité. C'est pour ça, quand vous êtes en face d'un marxiste, essayez de vous renseigner s'il est père de famille. J'ai fait l'expérience plus d'une fois. S'il est marié, et parlez-lui de l'amour qu'il a pour son épouse. Parlez-lui de l'amour qu'il a pour ses enfants. Alors il vous en parlera librement, s'il veut bien. Puis après, vous lui direz, est-ce que votre marxisme éclaire beaucoup votre amour pour votre épouse? Alors il dira, ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour mon épouse. Donc ce n'est pas une philosophie de l'homme. Est-ce que le marxisme éclaire votre amour pour vos enfants? Il répondra de la même façon. Et vous montrerez que le marxisme n'est pas une philosophie de l'homme. Vous voyez, là, on saisit tout de suite. Faites la même chose avec des psychologues. Je me souviens d'avoir fait une conférence, c'était en Suisse, c'était une conférence spirituelle que je faisais à des religieuses que je connaissais qui habitaient le Valais. Et comme c'était le dimanche, il y avait des personnes qui venaient. C'était ouvert à tous. Et j'avais dit dans la conférence quelque chose auquel je crois profondément, que la psychologie d'aujourd'hui, les diverses psychologies, ne peuvent rien dire sur l'amour. Après la conférence, on m'a dit, l'assistant de Piaget a assisté à votre conférence, il est furieux de ce que vous avez dit. Que la psychologie ne peut rien dire sur l'amour. Alors, je dis immédiatement, mais qu'il vienne me voir, on va discuter, c'est intéressant. Un assistant de Piaget qui était à Genève, à l'université de Genève. J'avais étudié un peu la théorie de Piaget parce que il y avait un étudiant qui faisait sa thèse sur Piaget avec le père Leuthen, il était venu me trouver. Et on avait beaucoup discuté ensemble. Ça sert à quelque chose, vous voyez, les thèses, pour les professeurs. Ça les oblige à travailler des sujets qu'ils ne travailleraient pas autrement. Et Piaget est positiviste. Il ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. Je vais étudier ça de près. Alors, entre deux, avant qu'il arrive, on me dit, et sa fiancée est là. Je dis, ah, il est fiancé. Tant mieux. Elle dit, on est sauvés. Alors, il arrive avec sa fiancée. Je dis, Paris, vous êtes furieux que j'ai dit que la psychologie, mettons entre nous, la psychologie de Piaget, ne vous dit rien sur l'amour. Oui, je... Ah, il paraît que vous êtes fiancé. Oui, ma fiancée est là. Je suis très heureux. Je salue, évidemment. Je dis bonjour. Je dis, la psychologie de Piaget vous a beaucoup aidé pour aimer votre fiancée. Alors il m'a regardé. Il m'a dit, en rien. Vous voyez bien, vous êtes d'accord avec moi. Et alors après, je me suis retourné vers la fiancée. Je dis, heureusement pour vous. Parce que sans doute, qu'il s'était servi de sa psychologie de Piaget pour vous aimer, vous ne seriez pas fiancé. Ça a été concluant, vous voyez. C'est vrai, la psychologie regarde le conditionnement humain, mais ne regarde pas l'amour. Parce qu'on aime une personne, et pas le conditionnement d'une personne. Mais le conditionnement, vous voyez bien ce que c'est, même si c'est un conditionnement très profond. La manière dont cette personne raisonne. C'est pas ça que j'aime, quoi. Quand j'aime quelqu'un, la manière dont elle s'exprime, très bien. La manière dont elle s'habille, très bien. Ça peut me charmer momentanément. Mais c'est pas ça qui détermine l'amour. L'amour aime une personne. Les motivations dont parle le psychologue, c'est pas ce qui détermine l'amour. Les motivations peuvent être un chemin qui conduit à la personne, mais qui ne font pas découvrir ce que c'est que la personne. J'aime une personne. Si on aime vraiment, hein, si on aime spirituellement, on aime une personne. Et dès qu'on aime, on comprend tout de suite la différence entre l'amour et les motivations. Vous voyez, c'est très étonnant, hein. Parce que dans l'évangile de Jean, quand on parle de la vocation des apôtres, on dit Philippe était de la ville d'André et de Pierre, de Bethsaïde. Vous voyez, alors, psychologiquement, on dira, c'est pour cela qu'il a rencontré le Christ. Moi, j'ai dit non. C'est la rencontre qu'il a avec le Christ qui m'explique son amour. Et non pas qu'il était de Bethsaïde. Mais l'évangéliste souligne qu'il est de Bethsaïde pour bien montrer, peut-être, ça a joué un rôle. Ça a été une motivation. Et c'est pas à cause de ça qu'il est devenu disciple du Christ. Les motivations, c'est très très bien du côté de l'efficacité, et pas du côté de l'amour. Les motivations conduisent quelqu'un à un autre, c'est très bien. Il n'aurait peut-être pas entendu parler de Jésus s'il n'avait pas été de Bethsaïde. Étant de Bethsaïde, il a entendu parler de Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il a entendu parler de Jésus que Jésus l'a aimé. Et qu'il a répondu à l'amour du Christ. C'est deux choses différentes. Oui, le conditionnement et l'amour lui-même. Nous allons maintenant continuer à réfléchir. Oui, les degrés de vie. Les degrés de vie. La vie végétative, la vie sensible, la vie spirituelle. C'est très très ancien les degrés de vie. Ça vient des pythagoriciens. Ça vient de l'éthique pythagoricienne. Aristote les a repris d'un point de vue beaucoup plus d'analyse philosophique. Mais c'est très ancien, les degrés de vie. Je crois qu'on ne peut pas les nier. Il y a dans l'homme, dans la vie de l'homme, une vie végétative. Quand on a mal à l'estomac, on le sait. Quand on a mal au foie, on le sait. Quand on dort, on le sait. C'est la vie végétative qui domine à ce moment-là. Ronfler fait partie de la vie végétative. On ne ronfle pas dans un salon, normalement. Et quand ça arrive, tout le monde est gêné. Parce que c'est la vie végétative qui l'emporte sur la politesse. C'est très gênant. On ronfle. Tellement fatigué. Alors on s'excuse. On dit, voulez-vous, il n'a pas dormi toute la nuit. Et il a fait un effort énorme pour venir. Et puis il se met à ronfler. Non. La vie végétative l'emporte. On voit très bien ce que c'est que la vie végétative. La vie sensible, passionnelle, on sait très bien ce que c'est. La vie imaginative, on sait très bien ce que c'est. On en a... Et la vie intellectuelle émerge par moments, quand on suit des cours de philosophie. Mais de temps en temps, quand on suit des cours de philosophie, surtout l'après-midi, avec la chaleur du soleil, on s'assoupit. Alors c'est la retombée dans la vie végétative. À ce moment-là, par amour pour celui qui s'endort, on se met à crier très fort pour le réveiller. Ou aimablement, la personne qui est à côté donne un petit coup de coude. Alors on voit ça. Puis celui qui s'en va, je me réveille. Vous voyez ? Donc on voit très bien les trois degrés. Du côté de la connaissance, du côté de l'amour, c'est beaucoup plus difficile. L'émergence de l'amour spirituel est moins nette que l'émergence de l'intelligence par rapport à la connaissance sensible et imaginative. Quoi que ce ne soit pas déjà toujours commode. Alors il y a un petit truc, très simple. Nos sensations. Ça, on a conscience de toucher. On touche. L'imagination, on a conscience des représentations. Et les connaissances intellectuelles, c'est la signification. Oui, chat. Vous imaginez un chat, si vous avez un peu d'imagination. La représentation d'un chat. Et les deux petites oreilles. Puis la moustache. Oh, ça tout de suite. On voit très bien ce que c'est qu'un chat. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chat? La signification. Là, vous ne pouvez plus représenter. Et vous essayez de donner une définition du chat qui sera vraie pour tous les chats. Tandis que la représentation reste symbolique. Elle est singulière. Puis quand vous touchez le chat et quand vous entendez le miaulement du chat, c'est encore autre chose, hein. Quand le chat vous fait une bonne griffe d'amitié, c'est encore autre chose. Petit à ce moment-là, sale bête. Hein? Oui, alors à ce moment-là, vous passez de la représentation à l'animal qui est vivant là. Et vous avez une bonne petite tape. Allez, ne faites pas ça. Vous voyez, vos degrés de connaissance sont très simples. Alors, après... Dans la connaissance intellectuelle, vous allez la connaissance mathématique, les connaissances scientifiques, la connaissance philosophique, la connaissance métaphysique. Toute une série de degrés, des quantités de degrés. Je crois qu'il y a 50 ou 60 sciences. multiples sciences. Ça s'invente tout le temps. La graphologie, c'est une science. Ouais, Satan est une science. C'est très souvent beaucoup plus un art. La psychologie, est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un art? La pédagogie, est-ce que c'est une science ou est-ce que c'est un art? Et des quantités de sciences qui sont au fond de là, la médecine. Pour les anciens, c'était un art. Pour les modernes, il faut passer des examens. La science. Mais c'est très curieux et c'est très intéressant d'avoir tous les degrés de science, tous les degrés de connaissance. Alors, il y a les degrés de vie et les degrés de connaissance. À l'intérieur des degrés de vie, puisque l'intelligence, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. C'est la manière de vivre la plus consciente, la plus spirituelle. Alors, continuons de réfléchir sur ce que je vous disais tout à l'heure, je suis. Ceci est. Le jugement d'existence est présent à toute connaissance philosophique. La philosophie ne regarde pas le possible. Elle le regarde, mais elle le regarde en second lieu. Je ne fais pas la philosophie du possible. Je fais la philosophie de ce qui est. Or, parmi les réalités qui existent, donc ceci existe, la réalité la plus parfaite, c'est l'homme. Nous avons déjà dit ça. La réalité la plus parfaite, c'est l'homme. Regardez toutes les autres réalités. Même le soleil est moins parfait que l'homme. C'est pour ça qu'adorer le soleil, c'est oublier ce qu'on est. Puisque l'homme dépasse le soleil. Pour les anciens, le soleil avait une âme. Dans la mythologie. Alors on pouvait adorer le soleil en tant qu'il était un être tout à fait particulier. Mais je n'ai pas d'expérience directe du soleil. Parce que si vous voulez avoir une expérience du soleil, allez, touchez-le. Et revenez me dire après ce qu'il en est. J'ai une expérience de la Lune, maintenant, grâce aux cosmonautes. Vous voyez, il y a une partie de la philosophie nouvelle, la philosophie de la Lune. De la Lune, je regarde la Terre. Et je vois que la Terre est une petite planète bleue. À cause de l'eau. Et c'est vrai que j'ai une expérience tout à fait particulière de la Lune. Mais au fond, je n'ai pas une expérience directe de la Lune. J'emporte mon atmosphère avec moi. Je n'ai pas vécu sur la Lune. Je ne pourrais pas vivre sur la Lune. Donc il n'y a pas une nouvelle partie de la philosophie. Les cosmonautes ne sont pas des philosophes. C'est vrai, c'est une expérience extraordinaire. Et vraiment extraordinaire. Si la préparation ne durait pas si longtemps, on pourrait quand même essayer. Parce qu'il y a des limites d'âge. Parce que justement, c'est un exercice un peu trop impressionnant. Mais ça doit être quand même une expérience assez étonnante. Ça intéresse le philosophe, c'est une expérience. Et tu dis, qu'est-ce que c'est? Et justement, je vois que ce n'est pas véritablement une nouvelle expérience. Parce que j'emporte mon atmosphère avec moi. C'est une expérience négative. Il n'y a pas d'eau sur la Lune. Et donc, la vie n'est pas présente. Mais c'est très intéressant. Pour justement mettre à l'état très net, une matière non vivante. Que j'ai bien aussi l'expérience d'une matière non vivante, mais elle est toujours plus ou moins liée à la matière vivante. Donc, l'homme, l'expérience la plus parfaite, c'est dans l'homme que ceci est le plus parfait. Et je peux le dire pour moi. Je peux me regarder objectivement et dire ceci est, j'existe. Et quand je dis ceci, j'existe, je suis donc devant une nouvelle expérience, un nouveau jugement qui porte sur mon exister. Et j'ai à ce moment-là, je ne quitte pas l'expérience première, ceci est. Mon expérience première de ceci est prend une modalité nouvelle que d'une certaine manière je saisis mon existence par ma vie. Alors la très grosse question, c'est de savoir si j'ai une connaissance immanente de l'être. J'ai une connaissance immanente de la vie. Je pense. Je parle. J'ai une connaissance immanente de ma vie. Évidemment, quand il s'agit de la vie végétative, ma connaissance immanente est assez restreinte. Parce que je ne sais pas très bien ce qui se passe dans mon estomac quand j'ai mal à l'estomac. Quelle est la connaissance que vous avez d'introspection sur votre estomac et sur votre foie? Ah, j'ai des douleurs d'estomac. Oui, j'ai des douleurs d'estomac. Et je ressens des douleurs d'estomac. Mais je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je connais les effets. J'ai mal à la tête. Ah, quelque chose qui se passe. Je n'ai pas une connaissance immanente de ma vie végétative. Connaissance assez extérieure. Vous voyez, l'immanence de la vie s'arrête au monde végétatif. La respiration. Je peux réfléchir sur ma respiration, mais je ne connais pas très bien ce que c'est. Assimiler. Il faudrait connaître ce que c'est que l'assimilation vitale. Faire que quelque chose qui est extérieur, l'oxygène, devient moi, est transformé en moi. Il y a une espèce d'opacité de l'assimilation vitale qui fait que je ne suis pas immanent à mon assimilation vitale. Donc, je constate que l'aliment est extérieur à moi, que l'oxygène est extérieur à moi, puis qu'après, il est immanent. Au bout d'un certain temps, il devient mon sang, il devient complètement transformé en moi. C'est très curieux. Donc, je suis, vous voyez, tout proche, mais je n'ai pas une connaissance immanente. Tandis que dans la sensation, oui, je vois. J'ai conscience de voir. J'ai conscience de toucher. C'est pas très clair, hein, parce que c'est très difficile de savoir ce que c'est que la sensation. Mais quand même, vous voyez, l'immanence augmente en fonction des degrés de vie. Et quand j'arrive à la vie du cogito intellectuel, de la pensée, j'ai une immanence parfaite. J'ai conscience de penser. J'ai conscience d'aimer. Alors, la grosse question, est-ce que, quand je dis « je suis », y a-t-il une connaissance immanente de ce qui est, du « ceci est » cogito ergo sum. Hein? Descartes dit ça. Parce qu'évidemment, dès que je dis je suis, je pense à Descartes. Et Descartes dit cogito. Ergo sum. Donc, au-delà du je suis, il y a le cogito. Est-ce que c'est tout à fait juste? Oui, c'est là la position par rapport à Descartes. Descartes a compris quelque chose, que le cogito n'est pas égal à je suis. Je ne peux pas mettre ça. Descartes a voulu montrer la distance qui existe entre le cogito et je suis. Et là, il a raison. Il y a une distance entre les deux. Et cette distance, elle est très simple à comprendre. Descartes considère que ce qu'il y a de premier, c'est la conscience et la certitude. Où est la conscience? Dans le cogito. J'ai conscience de penser. Est-ce que vous avez d'abord conscience de penser ou d'abord conscience d'exister? Vous avez d'abord conscience de penser. Au niveau de la conscience, Descartes a raison, le cogito est premier. C'est tout à fait raison. Au point de vue de la conscience. Puisque, est-ce que j'ai conscience d'exister? Oui, parce que je pense. Parce que je pense, oui, parce que le ergo, parce que. En réalité, c'est une condition sine qua non. J'ai conscience d'exister par ma pensée, grâce à ma pensée. Si maintenant, pour moi, ce n'est pas la conscience qui est première. La conscience est toujours quelque chose de second. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La conscience est toujours quelque chose de second. Parce que avant la conscience, il y a la connaissance. Et la connaissance intellectuelle va avoir comme propriété la conscience. Et la connaissance est antérieure. La preuve, c'est que j'ai plus ou moins conscience. Il y a du plus et du moins. Il y a du plus et du moins aussi dans la connaissance. Mais la connaissance est première. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait connaissance. La connaissance, c'est toujours la connaissance de quelque chose. Je connais quelqu'un. Je connais quelque chose. J'ai conscience de connaître. Ma conscience me rapplique sur la connaissance. Et la connaissance me conduit à quelqu'un, quelque chose. Connaissance de quelqu'un. Connaissance de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'objet de ma connaissance. L'objet au sens fort. Et je commence un tout petit peu à dire, oui, l'erreur de Descartes, c'est de ne pas avoir distingué connaissance et conscience. C'est gros, mais c'est comme ça. Et donc, à la place d'atteindre quelque chose de premier, il atteint quelque chose de second. Or, ce qui est important, c'est de connaître ce qu'il y a de premier pour le philosophe. Parce que s'il ne connaît pas quelque chose de premier, vous comprenez très bien, il sera battu par quelqu'un qui va aller plus loin que lui. Le philosophe, la pensée philosophique, a toujours le souci d'être ultime. Ultime dans le sens fondamental, ultime dans le sens de la recherche, au point de vue final. Toujours. Ça, c'est commun à tous les philosophes. Tous les philosophes veulent être une connaissance exhaustive. La philosophie comme telle, encore une fois, ça c'est commun à tous les philosophes. Qu'on soit idéaliste, qu'on soit réaliste, qu'on soit aristotélicien, qu'on soit platonicien, néoplatonicien, toujours. Hegel veut une connaissance totale. Alors il appelle ça un système. Très bien. C'est une connaissance totale. Aristote veut une connaissance qui atteint tout. Il n'y a pas une connaissance plus radicale que la philosophie. Cette connaissance plus radicale serait une philosophie. C'est pour ça qu'on dit une métaphysique. En disant une métaphysique, on veut dire qu'on veut chercher quelque chose qui est plus radical que la physique, qui est plus premier que la physique. Le propre de la connaissance philosophique, c'est d'être une connaissance qui se veut exhaustive. Donc, si la conscience n'est pas première, la philosophie de Descartes qui commence par la conscience n'est pas une véritable philosophie. C'est ennuyeux pour les Français. Mais il faut être dans la vérité. J'aime Descartes parce qu'il est français, mais j'aime encore plus la vérité. Donc, je dis, Descartes n'a pas été assez loin. Descartes est resté à mi-chemin. C'est une mini-philosophie. Il est resté à mi-chemin, prenez. Il n'a pas été jusqu'au bout. Au-delà de la conscience, il y a une connaissance. Et qu'est-ce qu'il y a de plus profond dans la connaissance intellectuelle? La connaissance de ceci. Rien n'est plus radical que ça. Le jugement d'existence. Ceci est. Je vous défie, hein, c'est bien de défier, je vous défie de trouver une connaissance plus radicale que le jugement d'existence. Ceci est. Il suffit de le découvrir, hein. Je vous le dis. Et vous chercherez, vous ne trouverez pas. Et c'est intéressant de chercher. Il faut faire le tour du monde. Et le tour de tous les philosophes, je l'ai fait. Au moins de tout l'Occident. C'est la même chose pour l'Inde. Parce que j'ai un ami qui est très très fort dans la philosophie de l'Inde, Lacombe, ben il m'a dit que c'est exactement la même chose que pour la philosophie d'Occident. Il y a une philosophie réaliste et une philosophie idéaliste. On comprend très bien. Et la philosophie réaliste fonde sur jugement d'existence, ceci est. Et ça, c'est fondamental. Donc, qu'est-ce qui est premier dans la connaissance? Connaissance de ce qui est, l'exister, l'être. Connaissance touche ce qui est, donc elle touche l'être. Alors là, on trouve quelque chose de très intéressant au plan philosophique. Cette affirmation de saint Thomas, qui ne vient pas de lui, qui vient d'Avicenne, et qui l'a repris. Je crois qu'il le nomme 173 fois, je crois, quelque chose comme ça. Il y a une thèse qui est parue à la Grégorienne, qui a compté ça dans toutes les œuvres de saint Thomas. Saint Thomas dit 173 fois, primo cadit in intellectu ens. Alors je vous l'écris, ça vaut la peine. N'est-ce pas ? Je vous l'écris en latin. Puisque saint Thomas le dit en latin. Primo cadit in intellectu ens. Je ce qui est. Ce qui est et ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Autrement dit, ce que l'intelligence regarde en premier lieu, c'est ce qui est. Ce n'est pas du tout la conscience. L'intelligence ne regarde pas en premier lieu la conscience. L'intelligence ne se regarde pas en premier lieu. Elle est tendue vers ce qui est. C'est très beau, ça, vous voyez. Et ceci rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le jugement d'existence, c'est ce qu'il y a de premier, de plus fondamental. À partir de là, vous pouvez dire ça. Primo cadit in deitus ens. Alors, mot cadit, vous voyez, ça vient de l'arabe. Hein. Parce que c'est vrai, cadit, le puits est profond. Alors, vous lancez un petit caillou, ça tombe dedans. Alors, l'intelligence est tellement profonde. Qu'est-ce qui tombe dedans? Le petit caillou qui existe, qui est. Il est. Alors, ça tombe dans l'intelligence. Cadit in deitus. L'intelligence est faite en premier lieu pour atteindre ce qui est. Alors, vous voyez, quand je dis « je suis », c'est très beau, ça. Très, très beau. Je ne dis pas du tout que c'est premier. Le petit gosse ne dit pas d'abord « je suis maman ». Non, non, je faut du temps. S'il disait ça, sa mère serait très inquiète. J'ai rêvé cette nuit, maman, je suis. J'existe. Puis quand vous allez au marché, vous voyez des carottes, vous demandez le prix des carottes, et vous ne dites pas à la marchande de carottes, « Madame, est-ce que ça existe, ces carottes ?» Vous posiez la question, « Tiens, mais il est fou. » Ce matin, il fait de la philosophie. Donc il est complètement fou. Est-ce que ça existe ? Ça existe. C'est. Vous voyez, le philosophe se pose des questions que personne ne se pose. Pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour pouvoir, c'est vrai. Vous savez bien, c'est la base qui compte. Si on s'appuie sur quelque chose qui est un terrain mouvant, on n'ira pas où. Il faut toucher le roc. Quel est le roc philosophique? Ceci est. Ceci existe. Et puis alors, je dis, j'existe. Alors, vous voyez? Quand je dis j'existe, j'ai conscience d'exister. Et mon intelligence touche mon exister. Ah, ça c'est très curieux. Et quand je touche mon exister, je ne le touche pas avec ma main. Je le touche avec mon intelligence. À travers ma pensée. Une pensée qui est faite pour atteindre l'être. Alors, je compare. Quand je dis ceci est, je touche l'exister extérieur à moi. Quand je dis je suis, je touche l'exister immanent à moi. Je vois donc que l'exister est au-dessus de la distinction extérieure, immanent. L'être est au-dessus. Ce qui est au-dessus. Et l'intelligence est capable, par elle-même, d'atteindre directement, immédiatement, dans un jugement d'existence, ce qui est. Quand même quelque chose d'assez impressionnant, ça. Quand je pense « je suis », quand je dis « je suis », je connais donc mon être, mon exister, et je connais l'exister à travers moi. je ne m'arrête pas à mon moi. Je m'arrête à l'être. Et donc, je m'arrête à quelque chose qui, d'une certaine manière, est en moi et au-delà de moi. Puisque je rejoins le jugement d'existence, ceci est. Et je saisis quelque chose qui est actuellement, qui est en acte. Quand je dis « je suis », j'ai donc une expérience d'un caractère tout à fait particulier par rapport à l'être. Et je saisis immédiatement que dans mon « je suis distinct des autres. Et pourtant, il y a quelque chose de commun avec tous les autres, parce que toutes les réalités que j'expérimente, qui sont des personnes humaines, peuvent dire, elle aussi, je suis. Tu dis, je suis, mais moi aussi, je suis. C'est donc à la fois ce qu'il y a de plus distinct en moi et ce qu'il y a de plus commun. Quand je dis, je suis, et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui dit, je suis, quelle différence y a-t-il entre moi, mon je suis et ton je suis ? C'est que mon je suis, c'est moi qui le dis. Et quand l'autre dit je suis, c'est toi qui le dis. Mais quelle différence y a-t-il entre toi et moi à ce niveau de l'être ? Ah, vous savez plus là. Oui, comme c'est curieux. Je touche là quelque chose de très fondamental en moi. Personne, c'est je suis. La personne, c'est donc l'être en tant qu'il est connu d'une manière tout à fait propre et intime.